l'art pour tous. Cette donation est faite pour faire profiter tout le monde de ce travail de collectionneur que j'ai fait pendant 25 années et ma femme m'y a beaucoup aidé.
Dessine-moi une collection. Le podcast du Musée d'art moderne de Troyes, Collection nationale Pierre et Denise Lévy.
C'est un artiste passionné qui se lance dans des recherches, qui pense rapidement en avoir atteint les limites et qui change alors complètement de direction.
Il a été bien au-delà de la peinture, la céramique, la sculpture, dessinateur aussi, aquarelliste extraordinaire. La vie de l'homme est tout de même assez passionnante.
Épisode 8, André Derain, artiste majeur et touche à tout.
Derain, c'est un artiste très important pour notre collection à double titre.
Juliette Fèvre-Préda, conservatrice du musée.
Tout d'abord, le fond Derain. On a un des fonds les plus importants de cet artiste, avec plusieurs centaines d'œuvres, plus d'une centaine de tableaux, de sculptures, énormément de dessins. Et puis, c'est aussi un artiste qui, comme Maurice Marino, peintre et maître verrier troyen, a eu un impact sur la collection. Ami des Lévy, il les accompagnait chez les collectionneurs, chez les galeristes, chez les artistes. Il a aidé Pierre et Denise Lévy dans le choix des œuvres qu'ils ont collectionnées.
L'indéfectible amitié entre André Derain et le couple Lévy se noue grâce au marchand d'art Ernest Ascher. C'est lui qui est à l'origine de la rencontre dans l'atelier de Derain, rue d'Assas, à Paris.
Pierre Lévy évoque ce contact dans ses mémoires comme un choc qui fut le point de départ d'une longue et affectueuse amitié. Il décrit Derain comme un artiste fort, avec une culture immense et passionnée. Et ils ont vraiment de grands échanges sur l'histoire de l'art ou sur plein d'autres choses.
Pierre Lévy, l'admirateur. Pierre Lévy, le mécène.
Pierre Lévy achète 120 tableaux et des centaines de dessins, également des sculptures. Donc ça montre sa fascination pour l'œuvre de cet artiste. Mais c'est aussi effectivement une volonté de le soutenir financièrement. Pierre Lévy aide beaucoup Derain sur tous les aspects administratifs, sur ses relations avec les marchands. Il l'aide notamment pour les demandes de prêts, auxquelles Derain était parfois réticent. Et il le soutient même dans toutes les péripéties qui marquent la vie personnelle de Derain. Il sera vraiment aux côtés de l'artiste jusqu'à sa mort, où il est à son chevet jusqu'à la fin.
Radioscopie, France Inter, avril 1976, Jacques Chancel reçoit Pierre Lévy.
C'est Derain qui m'a appris que dans un tableau, il faut qu'il y ait des erreurs, il faut qu'il y ait des fautes, sans cela, ce qui est bon dans le tableau ne se verrait pas.
Derain vivait avec Alice Derain, comme un couple bourgeois.
Geneviève Taillade est la petite nièce de l'artiste et présidente de l'association des Amis de Derain.
Il recevait le dimanche, sa femme faisait la maîtresse de maison, faisait les choses très bien. Il recevait ses amis comme Braque, comme Giacometti, comme Pierre Lévy.
Dans l'immense propriété de Chambourcy dans l'Oise, André Derain héberge le couple Taillade, la sœur d'Alice Derain dont il peindra plus d'une centaine de portraits, et son mari, ainsi que leurs deux enfants, Geneviève et son frère.
Mon père, ma mère, mon frère et moi, nous habitions dans la petite maison qui était sur la propriété, mais qui était une petite propriété séparée. Et plus tard, à la mort de Derain, Alice Derain, qui était toute seule dans cette grande maison, a demandé à toute ma famille de venir vivre avec elle dans la grande maison. Donc j'ai très très bien connu de nouveau les recoins que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. La propriété de Chambourcy était vraiment un vrai miracle pour les enfants. C'était un endroit tout à fait féerique parce que la maison était immense avec plusieurs étages, des recoins et le parc surtout. Moitié sauvage, moitié entretenu, avec des arbres sur lesquels on pouvait grimper, des petites bâtisses qu'on n'avait pas le droit d'escalader, mais qu'on escaladait quand même. Et ça faisait plusieurs hectares. Et de temps en temps, on croisait Derain. Il avait une petite voiture et il partait de la maison et il faisait tout le parc pour descendre jusqu'à son atelier d'été, car il s'était fait construire dans le fond du parc une sorte d'orangeraie. Il y avait un tour de potier, un petit four pour cuire les céramiques. Et là, il pouvait s'isoler dans cet endroit et surtout y mettre un chevalet énorme. Il pouvait aussi y recevoir des amis qui venaient regarder ce qu'il était en train de modeler, de peindre.
Le couple Lévy visitait régulièrement les Derain à Chambourcy, autant qu'il recevait André Derain dans la maison familiale de Bréviande, près de Troyes. Derain voyageait toujours en charmante compagnie, mais rarement celle de sa femme, qui supportait ses aventures.
Mon grand-oncle partait avec sa Bugatti pour aller à Bréviande passer des week-ends. plus tard, j'ai eu l'occasion de rencontrer à de nombreuses reprises Pierre Lévy, qui m'a appris aussi beaucoup de choses que j'ignorais de la vie, disons, tumultueuse d'André Derain, dont on ne parlait pas à la maison.
Car André Derain était un homme ambivalent, une éducation et des principes bourgeois, mais une vie plutôt volage.
C'était tout à fait ça, et tout ça je l'ai appris bien sûr beaucoup plus tard. On parlait de ses principes, c'est-à-dire qu'il attachait beaucoup d'importance à ce qu'on travaille bien à l'école, par exemple. On apprenne le piano, peut-être l'anglais, enfin, et très tôt, on a essayé de m'inculquer tout ça, et je lui donnais le concert pour son anniversaire. J'apprenais exprès pour lui les petites pièces faciles de Bach ou de Mozart, et je jouais pour lui ces petits morceaux, et il était très très content. Il venait, il s'asseyait, il m'écoutait, il me félicitait, bien sûr. Il pouvait être extrêmement gai, amusant, et puis pouvait être aussi extrêmement taciturne et voulant voir personne et assez désagréable comme ça. Nous, enfants, il nous faisait quand même peur parce que c'était une stature. Il était gros à la fin de sa vie. Enfin, il était quand même imposant, grand. C'était un petit peu l'ogre, pas méchant, mais enfin quand même, il fallait pas trop être dans ses pattes, pas le déranger ou aller comme ça dans toutes les pièces sans demander quoi que ce soit.
Radioscopie, France Inter, avril 1976, Jacques Chancel reçoit Pierre Lévy.
Un tableau n'est pas un objet. Il est différent à chaque heure de la journée. C'est une compagnie. Je pense maintenant à une toile de Derain qui s'appelle Amiens. À certains moments, c'est un décor de théâtre. Le soir, le tableau est tout à fait différent que le matin. À la lumière, il perd un certain charme. C'est un tableau qu'il faudrait regarder en plein air. Alors, un tableau, c'est une chose absolument invraisemblable. Et Matisse m'a dit, j'ai dans ma salle à manger un Derain qui est accroché là depuis 20 ans. Je ne l'ai pas encore bien vu.
Incontestablement, André Derain est un artiste majeur du XXe siècle. S'il participe au mouvement cubiste aux côtés de Picasso, c'est surtout l'un des initiateurs du fauvisme.
En 1900, à 20 ans, il se lie d'amitié avec Maurice de Vlaminck, avec qui il peint en plein air dans les environs de Paris et à Chatou. Il peint ensuite avec Matisse à Collioure, et c'est là qu'est né le fauvisme face à cette lumière du Sud. Le fauvisme crée un scandale, et c'est ce scandale qui va vraiment faire connaître Derain. Vollard lui achète ensuite de nombreuses œuvres, l'envoie à Londres pour peindre toutes ses vues fauves de Londres, donc c'est là que Derain devient un des grands artistes.
Après cette période fauve qui construit son succès mais qui ne dure que 4 ans, Derain se renie.
Pour partir sur quelque chose de complètement différent, qui est sa période dite du retour à l'ordre, il réinterprète les maîtres du passé. Il s'inspire de toute la tradition, que ce soit les peintures de Pompéi, les natures mortes italiennes ou espagnoles du XVIIe. On a cette réinterprétation de la tradition. Il cherche quelque chose de stable, qui puisse tenir dans les musées. C'est une réinterprétation, mais ça reste quelque chose quand même de très moderne. C'est pas une simple copie. Un peu à l'image de l'artiste de Quirico.
De son vivant, André Derain est reconnu comme l'un des trois grands artistes aux côtés de Matisse et Picasso. Mais peu à peu, il va tomber dans l'oubli auprès du grand public.
Et puis, Derain est contraint de participer à la visite des artistes français en Allemagne en 1941.
Berlin, un groupe d'éminents artistes français est reçu dans l'atelier d'État du professeur Arnaud Brecker. On reconnaît notamment messieurs Landowski, Derain, Despiau.
C'est un grand voyage de propagande qui est organisé par l'Allemagne nazie. C'est un voyage qui va bien sûr entacher sa réputation après-guerre. Il est taxé de collaborateur et il s'isole volontairement du monde social et artistique, tout en continuant néanmoins à produire énormément d'œuvres.
Et pas seulement des toiles. Tout au long de sa vie d'artiste, il aura exploré de nombreux terrains d'expression de son talent aux multiples facettes.
Je trouve très intéressant tout le reste de son fonctionnement, ce changement de style qu'il a pu faire et un peu ce côté touche-à-tout, puisqu'il a été bien au-delà de la peinture. Bon, un dessinateur aussi, aquarelliste extraordinaire, mais décorateur de théâtre, c'est énorme le travail qu'il a pu faire pour le théâtre et le ballet, avec Diaghilev entre autres, les ballets russes.
En 1918, il reçoit une première commande pour l'annonce faite à Marie de Paul Claudel, dont on conserve une grande peinture préparatoire au décor. Cela lance sa carrière dans le théâtre. Il crée des décors, mais également des costumes, des livrets.
Il a illustré beaucoup, beaucoup d'ouvrages. On connaît le Pantagruel, on connaît Satyricon.
C'est un artiste qui est très proche d'Apollinaire. On a au Musée d'Art Moderne tout un ensemble de ces illustrations, que ce soit des bois gravés pour le Pantagruel, la cassette de plomb de Gabory, ou encore des dessins pour Ami et Ami, qui est une chanson de geste du XIVe siècle. Derain a aussi eu un impact majeur dans la sculpture. Il a une très grande production de sculptures, très variée, avec notamment beaucoup d'œuvres en taille directe. En 1938, il réalise également un ensemble de plus de 70 sculptures en terre cuite, qui sont par la suite fondues en bronze par Pierre Lévy. Là encore, il s'inspire d'une multitude de styles. On retrouve des éléments qui s'inspirent des œuvres antiques, des œuvres aztèques. Et le Musée d'Art Moderne de Troyes est l'un des seuls musées à avoir la collection complète de ces 77 bronzes avec le Petit Palais de Genève.
La céramique, la sculpture, le côté mécanicien, quand par exemple il mettait la tête dans le capot pour voir une petite vis qui manquait à sa Bugatti, il ne pouvait pas s'empêcher de tout le temps regarder le moteur de sa voiture. Il tombait du toit des tuiles en zinc, il prenait tout de suite les morceaux qui étaient tombés, puis se mettait à faire une petite sculpture en zinc ou en plomb.
En plein dans sa période fauve, il rencontre le céramiste André Mettet et il réalise avec lui une trentaine de céramiques. Des plats, des vases, un service à thé. On a au Musée d'Art Moderne un très beau vase aux oiseaux. Le vase a été réalisé par le céramiste Mettet et décoré par des grands oiseaux fauves par Derain. C'est un artiste qui s'intéresse également à la musique, c'est vraiment un grand intellectuel. Il joue lui-même de l'orgue et collectionne de nombreux instruments. Enfin, il réalise aussi beaucoup de grands décors, comme par exemple la décoration du Palais de l'Aéronautique et du Chemin de Fer pour l'Exposition universelle de 1937.
Venez découvrir au Musée d'Art Moderne l'un des fonds les plus importants au monde d'André Derain. Venez à la rencontre de cet artiste majeur et inclassable dont l'œuvre est étroitement liée à la ville de Troyes.
La vie de l'homme est tout de même assez passionnante. C'est d'ailleurs Michel Charza qui a fait sa biographie en puisant beaucoup dans des anecdotes et des archives familiales et autres, le Titan foudroyé. C'est une vie passionnante, on peut dire. Quelquefois tragique, mais passionnante.
Le prochain épisode de Dessine-moi une collection vous emmène dans une pièce à part entière du musée, son jardin entièrement redessiné, conçu comme un lieu de vie et d'exposition permanente.
Retrouvez l'agenda des expositions, conférences, ateliers du Musée d'Art Moderne de Troyes, Collection Nationale Pierre et Denise Lévy, sur les réseaux sociaux du musée et sur musée-troyes.com.
Dans 250 ans, on regardera encore un beau sera. Et s'il est resté en France, mais je m'honore d'avoir été utile à mon pays, si ce n'est que pour cela.